Donc cette semaine a eu lieu la 5e édition du Festival Lumière qui est organisé à Lyon depuis 2009 par l'Institut Lumière. Après Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu et Ken Loach, le lauréat du prix Lumière de cette année était Quentin Tarantino. Outre ces films, il y a donc eu d'autres rétrospectives à l'HB, le studio Ghibli ou encore celle du cinéaste sur lequel nous avons décidé de nous arrêter quelques instants, Ingmar Bergman.
Oui, merci Aliette. Bonjour chers auditeurs, retraçons ensemble la trajectoire de ce grand cinéaste que fut Ingmar Bergman. Bergman naît le 14 juillet 1918 à Uppsala, en Suède. Fils d'un pasteur luthérien, il est élevé dans la traque obsessionnelle du péché. Les punitions corporelles sont courantes. Ce sont toutes les séquelles d'une enfance torturée que thématise son œuvre, quand son esthétique cherche à sublimer la souffrance d'une émancipation salvatrice. Si on nie souvent à l'œuvre de Bergman toute dimension politique, c'est bien parce que, sous la patine philosophique, le spectateur décèle la tentative de digestion d'un passé qui ne passe pas. Survie et aventure personnelle, en somme, que le cinéma du Suédois, dont ce ne saurait être un hasard, si les leitmotifs s'articulent autour d'une émotion, la peur de la solitude. Ainsi, l'absence de Dieu, la peur de la mort et les déchirements du couple isolent l'homme, quand l'enfance, l'érotisme et le théâtre le régénèrent. Le théâtre, notamment, demeure pour Bergman un lieu d'ancrage et de convergence de toutes ses passions. Entre enchantement et catharsis, c'est aussi l'exact opposé du puritanisme et de l'idéal ascétique qui ont forgé son éducation. Par ailleurs, la découverte simultanée pendant ses années de formation de Shakespeare et de Strindberg influence durablement son travail. Plus généralement, sa conception de la vie comme comédie humaine, son amour des acteurs, son désir de travailler avec une troupe régulière se retrouvent de film en film. La scène est salle de jeu et la troupe une famille. Pour Bergman, le théâtre, c'est un foyer. C'est en fait dès l'université à Stockholm que Bergman se consacre à la mise en scène théâtrale. De 38 à 44, il monte une vingtaine de pièces avant de devenir metteur en scène professionnel. Puis on lui demande d'écrire un scénario pour le grand cinéaste suédois de l'époque, Alf Sjöberg. Ce sera Tourment, sorti en 44. L'année suivante, il passe à la mise en scène cinématographique en adaptant une pièce de Lech Fischer, Crise. Dès lors, Bergman mène de front les activités de cinéaste, homme de théâtre et scénariste. Ses premiers films sont marqués par une cinéphilie partagée entre une influence directe du cinéma américain et la noirceur des films de Jean Duvivier ou de Marcel Carné, combinée à une forme d'existentialisme à la suédoise proche d'un Kierkegaard. Un pessimisme fondamental, sur fond d'angoisse existentielle, mêle les thèmes les plus noirs. Mais au tournant des années 50, deux films, Vers la félicité et Cela ne se produira pas ici, rompent avec cette mélancolie. S'ouvre alors une longue série de films dans lesquels Bergman suspend le temps pour surprendre et saisir la mue de personnages sur la brèche entre adolescence et âge adulte. Jean-Luc Godard est sans doute celui qui a le mieux saisi la singularité du Bergman de cette époque. Je cite « Un film d'Ingmar Bergman, c'est, si l'on veut, un 1/24 de seconde qui se métamorphose et s'étire pendant 1h30. C'est le monde entre deux battements de paupières, la tristesse entre deux battements de cœur, la joie de vivre entre deux battements de mains. » En 1956, « Sourire d'une nuit d'été », présenté à Cannes, y reçoit le prix de l'humour poétique. En 1957, le 7e saut le consacre mondialement, décrochant le grand prix spécial du jury à Cannes. En 1958, il remporte avec les Fraises sauvages l'Ours d'or de Berlin et la plaque d'or du cinéma suédois. Enfin prophète en son pays, Bergman est devenu un grand cinéaste européen avec trois films qui présentent trois grands visages de son œuvre. La comédie Douce amère, le fantastique expressionniste et le drame psychologique. Mais en 1961, avec À travers le miroir, Bergman abandonne la luxuriante mise en scène de ses œuvres précédentes au profit d'une esthétique quasi minimaliste pour des films thématiquement plus complexes, sombres et rugueux. Du point de vue formel, il commence à mettre en pratique ce souhait, maintes fois exprimé, faire tout un film à partir de l'exploration d'un visage. Bergman devient ce faisant l'un des cinéastes phares de l'abstraction lyrique, ou pour reprendre Gilles Deleuze, le monde se déploie ou se reconcentre à partir d'un visage. Cette technique impressionne durablement les futurs metteurs en scène de la Nouvelle Vague et influence les cinéastes français de Jacques Doyon ou Philippe Garrel à Olivier Assayas ou Arnaud Desplechin. Désormais peintre des visages, le cinéaste abandonne tout effet stylistique, la caméra n'enregistrant plus que l'essentiel au profit d'une abstraction toujours plus grande en lien avec un niveau de réflexion élevé. Ainsi, À travers le miroir est aussi le premier volet d'une trilogie métaphysique, celle de l'absence de Dieu, dont font partie les communions et le silence, sortis dans la foulée. Ces trois films mettent le spectateur en présence d'un tout quasi dialectique. Dans une note, Bergman lui-même déclare « À travers le miroir, c'est la certitude conquise. Les communions, la certitude mise à nu. Le silence, c'est le silence de Dieu. » Mais le silence, c'est aussi le silence d'un certain Bergman, dont ce film marque en effet la fin du cinéma dit vertical. C'est quand Regard commence à contester toute une nouvelle génération de cinéastes soucieux de libérer leur cinéma national de la trop forte influence de Bergman. Pourtant, c'est précisément en générant cette nouvelle critique et en engendrant ainsi de nouveaux manifestes tapageurs que Bergman révèle toute la solidité de son art, toute la fécondité de son talent, montrant que s'il consent au silence, il ne saurait l'empêcher d'être assourdissant. Au terme de cette période métaphysique, Bergman se tourne vers des problématiques contemporaines qui, loin de l'éloigner des thèmes existentiels, l'y ramènent, sous la forme d'intrigues démentes, déclinant le sentiment global d'une modernité névrotique. De Toutes ces femmes, en 1964, où il dénonce la critique comme parasite, au Lien, en 71, où il met en scène une Emma Bovary des temps modernes. Mais c'est avec une œuvre à la fois sublime et déroutante, Cri et chuchotement, en 72, que Bergman atteint le point d'orgue de sa carrière. Après ce tour de force artistique, la dimension commerciale et quasi consumériste de plusieurs de ses réalisations semble marquer la déliquescence progressive d'une vision au profit d'un embourgeoisement relatif. Il tourne plusieurs œuvres destinées au circuit commercial et à la télé, remportant des succès populaires qui confinent, avec Scène de la vie conjugale, au phénomène de société. En 76, la police fiscale pousse Bergman à l'exil. Il trouve alors refuge à Munich, où il réalise L'œuvre du serpent, moins le tableau désespéré des conditions ayant favorisé l'émergence du totalitarisme nazi que l'histoire d'une persécution. Accusé à tort de fraude fiscale, Bergman, dans ce film, dramatise à outrance son propre sentiment d'injustice et met en scène un pays natal maltraitant. Les années 80 inaugurent la période de l'apaisement. Sarah Bande, 2003, y met un point final. Certains ont vu dans ce dernier film un possible retour de foi du cinéaste. Dans le making-of du film, celui-ci déclare à ce sujet « Depuis longtemps, je vivais avec la peur de mourir. Quand Ingrid, mon épouse, est morte, tout ça est devenu extrêmement compliqué. Je me disais, si c'est comme ça, je ne reverrai plus jamais Ingrid. Erland Josephson, comédien du film, et moi, on s'est téléphoné et je lui en ai parlé. Je me sens obligée de vous raconter ça parce que c'est la clé. Ce sont les fondements de ce texte. J'ai expliqué mon dilemme à Erland, que j'aimais bien l'idée de la mort comme définitive, comme le passage entre l'être et le néant, mais que dans ce cas, je suis face à un énorme problème, car je ne reverrai jamais plus Ingrid, et que c'était impensable. Et Erland m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu préfères ? Revoir Ingrid, évidemment !» je lui ai répondu. Et Erland a dit très sagement, « Va vers cette version-là, alors. » C'est l'un des conseils les plus précieux que j'ai eus. C'est fou, ça fait des lustres que les êtres humains réfléchissent à ce sujet, que ce problème les tourmente sans qu'ils trouvent une réponse, imaginez que ce soit si simple. Et c'est ainsi que, quelques années après avoir prononcé ces mots, après avoir invité son public non pas à croire, mais à imaginer, non pas à trancher définitivement sur la question de ce qu'est la mort, mais à plutôt se surprendre à espérer, non pas à souhaiter le néant pour en finir avec la douleur, mais à désirer une suite pour continuer à aimer, c'est après tout cela donc que le 30 juillet 2007, sur l'île de Farre, meurt celui que la presse du monde entier, unanime, salue alors comme un maître du cinéma, lui qui n'était pourtant plus Kingmar, amoureux d'Ingrid. Et je laisse maintenant la parole à Aliette, Ferdinand et Tamara, qui vont donc revenir plus précisément sur quatre œuvres de ce grand cinéaste qu'ils ont vues au Festival Lumière, Le Septième Sceau, Scène de la vie conjugale, Sonate d'automne, Fanny et Alexandre.
Pour commencer, on peut évoquer l'un des films de Bergman les plus emblématiques, Le Septième Sceau, qui est donc un film sorti en 57 qui avait eu à l'époque notamment le prix spécial du jury de Cannes et qui montre le retour de croisade d'un chevalier du XIVe siècle alors que la peste fait rage. Donc Ferdinand, nous avons vu tous les deux le film ensemble.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Grand film connu, je pense, hein, de Ingmar Bergman de 1957 en noir et blanc. Donc c'est un film qui est en fait une sorte de fable, hein, on pourrait dire, une fable qui est dans la tradition des mystères médiévaux. Hein, donc ces pièces médiévales allégoriques, on avait des personnages qui incarnaient des principes abstraits, en fait, hein, la providence, la mort, bon, ce genre de choses. Donc, qui pose un film qui pose donc la question métaphysique, on pourrait dire, hein, du rapport de l'homme à Dieu, à la mort et à la religion, hein, comme système de pensée, comme système de vision du monde, d'interprétation du monde, comme réponse possible aux angoisses de l'homme. Donc, le cadre général du film, hein, tu l'as dit, c'est l'histoire d'un chevalier qui, après les croisades, donc là on a le motif religieux déjà, qui s'appelle Antonius Bloch, revient chez lui, nuit dans son village et rencontre la mort, en fait, hein, au moment où il arrive. Et donc, la mort lui dit, bon, il est temps que tu viennes, etc. Et donc, lui dit, bon, écoute, est-ce que tu peux pas m'accorder un petit délai supplémentaire? Et donc, il se met à jouer aux échecs, en fait, avec la mort, parce que la mort aime bien jouer aux échecs. Et donc, l'idée, c'est que tant qu'il arrivera à résister à la mort aux échecs, eh bien, la mort ne va pas l'emporter. Hein. Donc, déjà, dans la métaphorique des échecs, on a tout un plan de lecture symbolique, parce que, bon, les pions des échecs, déjà, ça reprend les couleurs du film, hein, noir et blanc, etc., le principe antithétique, opposition. On a l'idée de, est-ce que finalement nous ne sommes que des pions, hein, sur un grand jeu d'échecs, guidés par une providence, etc. Voilà. Et donc, face à ces questions, à ces grandes questions, le rapport de l'homme à la mort, tu as évoqué la peste. Hein, donc, la peste, c'est l'occasion, en fait, à laquelle la question de la mort se pose. On a différentes attitudes. Hein, comment est-ce qu'on va aborder la question du rapport de l'homme à la mort, à Dieu ? On a le rapport de, on a la possibilité de Bloch, hein, qui est un intellectuel torturé, en fait, qui veut savoir, qui veut avoir des certitudes sur Dieu, sur la mort, etc., qui se pose des questions, bon, philosophiques. On a l'attitude plus pragmatique de son écuyer, hein, qui est un personnage bon, un peu comique presque, qui est plus
oui, le personnage un peu traditionnel de
oui.
L'écuyer par rapport à son maître.
C'est ça, tout à fait. Oui, là aussi, on est dans une tradition. Hein, bon, Sancho Panza et son maître, etc. L'écuyer, qui est le personnage bon vivant, qui traîne dans les tavernes, matérialiste, etc., qui se prospecte de questions, qui vit jour le jour. Et puis, on a le couple très touchant de saltimbanques, hein, d'acteurs, qui est présent aussi, et qui incarne plus, je dirais, une sorte de foi dans la vie et en Dieu, qui est beaucoup plus, oui, positive, naïve, en fait, hein, beaucoup
oui,
moins...
plus légère, quand même, oui. Parce que l'ambiance est assez sinistre.
C'est ça, oui, c'est un film, évidemment, plombant, hein, bon, enfin, comme tous les films de Bergman, enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et donc, ce couple de saltimbanques, hein, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus... oui, une foi, un optimisme. Hein, ils viennent d'avoir un petit enfant, etc. Donc là aussi, on est dans la symbolique du foi dans l'avenir, etc. Hein. Et donc à la fin, bon, ben, la mort, comme il se doit, l'emporte. Hein, on ne peut pas lui résister. Et donc, elle vient prendre Bloch et sa famille et ses proches. Hein, et puis, on a le thème de la danse macabre. Hein, donc là aussi, il y a un motif
clôt
médiéval.
Le film.
Voilà, c'est ça qui est repris et qui clôt le film. Hein, voilà.
Bon, très bien. Donc un film à... voir et à revoir. Un second film maintenant de Bergman auquel on peut s'intéresser, il s'agit de Scènes de la vie conjugale, qui est un autre de ses films très, très connus. Je trouvais assez intéressant de revoir ce film maintenant, puisqu'on est dans une époque où la télévision est très dynamique, les meilleures séries télé obtiennent un peu l'approbation des critiques. Et ici, on a justement un film qui, avant de sortir en 1974 sur le grand écran, est d'abord une série de 6 épisodes pour la télé. Donc on voit que déjà à l'époque, la télévision peut attirer des grands réalisateurs, et ce qui est une tendance qui revient quand même pas mal à la mode dernièrement avec Martin Scorsese, Gus Van Sant, David Fincher, ou encore même cette année, Jane Campion qui a sorti une série Top of the Lake qui a vraiment été très bien accueillie. Donc pour en revenir au film de Bergman, le Festival Lumière l'a projeté dans une version qui est montée pour le grand écran, qui fait quand même plus de 2h30, donc c'est assez long. Mais c'est vraiment un des classiques de Bergman qui avait remporté plusieurs récompenses, notamment pour son actrice principale, Liv Ullmann. Et donc c'est un film qui montre comment l'évolution du couple qu'elle forme avec Erland Josephson sur une vingtaine d'années, comment ce couple évolue. L'articulation en épisode est aussi gardée dans le film, puisque à chaque épisode, en fait, on retrouve le couple dans un rapport qui est différent. D'abord, c'est un couple modèle, marié avec enfant. Ensuite, il se sépare, puis il se réunit, puis il se sépare à nouveau en se disputant, etc. Donc voilà, il y a un jeu assez intéressant comme ça sur les rôles que jouent ces deux personnages, donc à la fois envers leur entourage, puisque au début, c'est le couple modèle qu'on voit en contraste un peu avec celui de leurs amis, qui ont des disputes publiques tout à fait insupportables. Mais aussi les rôles qu'ils jouent l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, et justement, c'est beaucoup moins sinistre que le septième sceau. Ça se termine plutôt bien. La relation des personnages à la fin semble à la limite plus saine qu'au début. Donc voilà, vraiment un film un peu long, mais très intéressant. Un autre film dont on peut parler, il s'agit Ferdinand. de Sonate d'automne.
Oui, bon, je dis vraiment juste deux mots sur ce film que j'ai revu là sur grand écran au Festival Lumière. Donc on est un peu quand même dans la continuité par rapport à ce que tu disais, parce que c'est un film qui explore les conflits familiaux, hein, entre membres de la famille proche, les névroses familiales, etc. Enfin, c'est ce qu'on a dans beaucoup de films de Bergman. Donc c'est une Sonate d'automne, c'est un psychodrame en fait, hein, en huis clos, entre une mère, Ingrid Bergman, et sa fille, hein, donc l'actrice fétiche de Bergman, dont tu parlais, Liv Ullmann. Et donc, hein, c'est Ingrid Bergman, pianiste mondialement célèbre, qui vient passer en fait un week-end en famille avec sa fille. Et donc, petit à petit, en fait, ces drames familiaux refoulés, ces histoires de, oui, hein, de choses qu'on se reproche depuis des décennies, qui n'ont jamais été dites, explosent, hein, sous l'effet du vin, de la proximité, etc. Et donc, au cours d'une nuit, en fait, la mère et sa fille vont se lancer à la tête, surtout la fille à la mère. Hein. Bon, en fait, des horreurs. Hein. Elle a énormément souffert pendant son enfance. Donc, une mère un peu castratrice, étouffante, hein, qui l'a forcée à avorter, etc. Bon, ça, elle a une sœur qui est handicapée, qui est là aussi pendant ce week-end, qui va avoir une crise, en fait, bon, qui va se mettre à crier dans toute la maison. Donc, là aussi, on est dans quelque chose d'assez plombant, hein, comme je dirais tout à l'heure. On est beaucoup sur l'intériorité des personnages avec des gros plans, etc. Mais avec quand même, je dirais, à la fin, une petite lueur d'espoir, puisque bon, la mère finit par repartir, hein, elle n'en peut plus. La fille, en fait, va lui écrire quand même une lettre de réconciliation. Et donc, la toute fin, la dernière séquence du film, c'est le mari, en fait, hein, de cette femme qui lit la lettre de réconciliation de la fille à sa mère. Hein. Donc après, c'est pareil, une heure et demie, deux heures, très intense, très, très horrible, on a une petite lumière à la fin, voilà.
Très bien. Et pour finir, à nouveau, revenant sur le principe du film pour la télévision qui est passé au cinéma ensuite, Tamara, tu nous présentes Fanny et Alexandre.
Le Festival Lumière a été pour moi l'occasion de découvrir Fanny et Alexandre de Bergman, un film de 1983 qui, comme scène de la vie conjugale, était d'abord un téléfilm de 5 heures, dont ensuite une version courte a été faite, une version de 3 heures pour le cinéma. Et donc c'est une grande saga familiale qui se déroule dans la Suède au début du XXe siècle. On suit donc tout particulièrement Fanny et Alexandre, qui sont les deux enfants d'une des branches de cette famille, une famille aisée en Suède, en 1907, quand débute le film, lors du réveillon de la nuit de Noël. Et donc, dans une première partie du film, les enfants Fanny et Alexandre vivent avec leurs parents qui dirigent le théâtre de la ville. Mais le père d'Alexandre, Oscar, meurt subitement. Donc, après la mort du père, la veuve Émilie, la mère des deux enfants, décide d'épouser un évêque. Et donc là, la vie des enfants va radicalement changer. La mère fuit le théâtre et ils vont mener une vie ascétique, une vie très sévère. Et les enfants vont subir les punitions violentes de cet évêque. Voilà, donc une vie douloureuse après la vie de l'enfance dans la maison protégée de la grand-mère.
Oui, en fait, ça reprend des éléments assez autobiographiques de la vie de Bergman lui-même, puisque son enfance a été marquée par le personnage de son père, qui était un pasteur luthérien assez sévère, assez dur. Donc finalement, on retrouve là, dans le personnage notamment d'Alexandre.
Oui, donc Alexandre, en fait, Bergman a intégré beaucoup d'éléments autobiographiques et on retrouve cette idée chez lui que face aux douleurs de la vie, face au quotidien difficile, le théâtre est en fait un échappatoire, le théâtre comme le cinéma, donc à travers l'imagination. Et du coup, en fait, dans le film, on a deux mondes qui s'opposent. On a d'un côté le monde de l'enfance dans lequel vit Alexandre, qui est le monde de l'imagination, le monde du théâtre, le monde des contes, des histoires, des lanternes magiques, voilà, où Alexandre adore se laisser emporter par toutes ces histoires. Mais de l'autre côté, il est aussi confronté au monde des adultes, le monde de la réalité, notamment à travers la mort de son père, qui est quand même un épisode très très douloureux, et qui lie en fait ces deux mondes, puisque son père meurt sur scène, en train d'interpréter un rôle, donc à un moment où Alexandre était en train de se laisser emporter par les costumes, par les histoires, les décors de théâtre, et à ce moment-là, le réel fait irruption, la vie rattrape en fait le rêve, et Alexandre est confronté à la mort du père. Voilà, c'est un film qui fait un peu la somme en fait de thèmes chers à Bergman, donc la mort, la famille, le théâtre, tout ça, le merveilleux, l'onirisme. Et donc Bergman l'avait d'ailleurs lui-même conçu un peu comme son film Testament.
Oui, c'est un peu le dernier film qu'il fait finalement pour le cinéma.
Oui, c'est ça, c'est le dernier film pour le cinéma et après il se consacre en fait à des films pour la télévision. Mmh.